93.
Bonjour, bon matin. Nous sommes mercredi le 28 juillet 2021. C'est une très belle journée qui s'amorce à Québec. Superbe journée, max de 23 au mercure, avec un soleil semblable à celui d'hier, c'est-à-dire splendide. On n'est pas loin de ce qui m'apparaît être la météo idéale. Pas trop chaud. Non, mais on n'est pas à veille de crever de suffocation. Là,
j'en prendrai un peu plus quand même.
C'est chaud, puis humide. Ben, ce matin, c'est frisquet, là. Ouais. On doit être autour d'à peu près 14-15 en ce moment, là. Mais hier, là, fantastique. Petit spike ball l'après-midi pendant 2 heures.
T'as bougé, bravo.
À peine sué. Ben, j'ai sué, mais...
À peine sué.
Ben, pour moi, je veux dire, tu sais, moi, je suis assis. Fait que, tu sais, on s'entend que...
C'est pour ça que c'est pas encourageant, c'était à peine sué.
Ben, j'ai sué, mais comme il faisait frais... On aurait pu nous rester de même, nous autres, pendant des heures et des heures. On était tellement bien, là. C'est vraiment superbe journée.
Tu séchais vite.
Je séchais vite, ça. Exactement. Surtout que j'ai été interrompu par ma blonde qui me crie après, parce que j'étais pas loin, j'étais dans le parc. Puis elle me crie après
t'as crié
parce
de
que...
de chez vous au parc?
Ouais.
Ben, voyons, Marie.
C'est la vie de banlieue.
Quoi? C'est pas sérieux, ça. C'est pas sérieux. Jure.
J'étais allé voir, qu'est-ce se passe-t-il? Puis elle me dit, la tondeuse marche plus.
T'es pas sérieux?
La tondeuse marchait plus, fait que là, j'ai dit, es-tu branché? C'est naturellement une affaire de gars. Es-tu branché? Es-tu la fuse qui a sauté? Le fil, es-tu? Ben oui,
branché?
Elle avait déjà checké. Oui, mais c'est juste que c'est l'ordre dans lequel tu vérifies les choses.
Okay, okay.
La tondeuse marche plus, t'as-tu passé sur le fil?
Okay, okay.
Comment qu'elle a arrêté de marcher?
Mais oui, es-tu avec une dinde d'abord?
T'as-tu essayé de la mettre dans une autre prise?
Parce que ton pied est pogné en dessous.
Elle, dans le fond, là, tu penses que quand la tondeuse ne fonctionne plus, la première chose qu'elle fait, c'est elle ne regarde pas si elle a passé dessus, si elle est branchée, si elle a débranché, si elle s'est trompée de plug.
Je sais pas, mais moi, j'arrive. Là. Ah. J'arrive et on me demande de faire un diagnostic.
Ouais. C'est sûr que à ta défense, toutes les étapes. On t'a crié dessus là, jusqu'au parc. Je ne vais jamais m'en remettre, honnêtement.
Il n'est pas loin, le parc.
Je ne vais jamais m'en remettre pareil.
Ben non, pourtant, c'est tellement normal.
Ben, ça fait très maman de banlieue quand t'avais 7 ans. Reviens du parc.
Ben, la seule différence, c'est que ma blonde est pas maman, mais je veux dire, on est en banlieue, le parc est là.
Ta voisine, je pleurerais encore de rire, moi.
Hein?
Voyons, la voisine.
Sérieux, vous trouvez ça bizarre de crier comme qui après dans le parc?
Jusque dans le parc pour que t'arrives. C'était cœur, hein?
As-tu visité ma maison?
Ben, par FaceTime, tu me l'as fait visiter.
OK, ouais, c'est ça. T'es pas venu encore.
Ouais, non, c'est ça.
Je pense que si
c'est
tu
loin,
voyais.
Lévis.
Mais je pense que tu voyais à quel point le parc il est vraiment proche, okay. Là.
Je pense que t'as besoin de contexte visuel pour
Mais honnêtement, j'aime mieux que ça reste comme ça. Je trouve ça trop drôle.
Vest, t'as dû te faire crier après, toi, pour rentrer à la maison.
Oui, en 1815.
On jouait tout le temps dehors avec la gang, puis on était chez un, puis chez l'autre, puis ma mère, elle savait pas dans quel cours on était, puis ça arrivait effectivement des fois. Pierre-Claude, Louis, prends-toi, venez le chemin!
Nous, le truc, c'était que tu regardais dans quelle entrée de driveway ton vélo était à terre.
Ah ouais, c'est ça.
C'est là que tu savais où que quelqu'un était.
Tes frères, c'est Pierre-Claude, Louis, puis André?
François.
Pierre-Claude, Louis, François?
Ouais. Mais il y avait Richard aussi, mais Richard était sage, lui.
OK.
Il étudiait tout
quand
le temps.
Voulait te parler, là, quand elle voulait te parler, elle disait-tu Richard, Louis, François, Pierre?
Encore aujourd'hui.
C'est une affaire de maman, ça.
Oui.
En tout cas, mais donc, mon diagnostic, ben là, j'ai réparé la tondeuse. Je suis arrivé.
T'as réparé la tondeuse.
Ben, quand je suis reparti, elle marchait pas encore. Là. Elle marchait encore pas. Mais j'ai fait les vérifications d'usage. Et là, il va falloir que j'investigue plus loin. Là, être aux soins intensifs. Là.
OK.
Puis pourtant, c'est drôle, parce que moi, j'étais sûr qu'une tondeuse, t'achètes usagée à 40$, ça dure toute une vie, ça.
Ben oui,
j'étais sûr de ça, là.
C'est de l'entretien, là. Puis si tu l'entretiens pas presque à chaque fois...
Ça existe un réparateur de tondeuse?
Ben oui. Appelle Jean, là.
Jean.
Mon père.
Ton père s'appelle Jean?
Il y a eu longtemps un commerce de...
C'est-tu Jean Caron?
Non.
Ah, ça a été si bon. Pas s'appelle Jean Charon.
Pas vrai?
Mais malheureusement, on s'en fout.
Une tondeuse usagée à 40$, oui, ça dure toute une vie si tu l'utilises pas.
C'est ça?
Voilà.
Je pensais que. Mais là, on l'utilise malheureusement.
Ah, bah,
mais là, je vais ouvrir le top.
Une idée.
C'est parce que, tu sais, sur le dessus d'une tondeuse, j'ai comme une grosse boule de plastique, un gros dôme, là.
Ça s'appelle un moteur en dessous.
C'est ça, là. Je vais enlever ça, voir c'est quoi qui est en dessous.
Paul!
Quoi?
Fais pas ça.
Pourquoi?
Les gars, là, qui pensent que ça doit être le top. M'enlever le top. M'en checker dans le top.
Ben, si j'en répare, là.
Ben oui, mais toi, t'es pas le gars de campagne qui a eu un skidoo toute sa vie, qui s'est taponné, qui s'est changé.
Amène-la, Alexis.
Je m'excuse. Oui, Alexis pourrait t'aider.
Arrête, non.
Hey, moi, là, elle me dit que.
Non, elle me dit elle.
Non, mais tout le monde...
La bonne femme, de ne pas être manuel.
Puis la fois que je vais essayer, on me dit, non, essaye pas, là, wow. Hey, la cave, toi, essayez.
On parle pas d'essayer de poser une étagère. On parle d'essayer de réparer un moteur.
Moi, j'ai peur pour toi.
C'est une petite fuse qui a sauté, quelque chose de même, mais de simple, là.
Oui, toi, tu vas comprendre ça comme ça.
Il y a pas de fuse dans un moteur électrique.
Non, mais...
Je le connais, mon bonhomme.
Je pense pas, là.
Une fuse, là, ça détermine une petite affaire là qui se change facilement.
Toi, tu vas la trouver.
Plus je t'écoute, plus j'ai peur. Puis je connais, mon bonhomme. Moi, je te connais avec ton trouble d'opposition. Tu vas vouloir trouver absolument c'est quoi parce que la tondeuse ne peut pas gagner sur toi. Mais elle va
gagner.
Non.
Ça a fini par jamais marcher. M'en racheter une. J'ai pas le choix.
C'est
là.
Ça, hein, oui.
Ben, c'est parce qu'il faut que je tombe la blouse.
Non, hein. C'est sûr, mais tu vas taponner longtemps.
Ben non.
M'enlever le bout de le dôme là, sur le top. D'après moi, il y a une fuse de pété.
Mais
ça,
si
ça
tu
me
veux
fait peur.
Devenir manuel, si tu veux apprendre, c'est la première étape. T'enlèves le petit capot.
Voilà.
Le couvercle.
C'est ça.
Puis après ça, mais il faut que tu regardes avant. Si tu défais des affaires, regarde comme il faut comment c'était fait. Là.
Très bon commentaire pour pouvoir le refaire.
Prends des photos.
Exactement.
À chaque
étape.
Exactement.
Regarde-moi sans rire, toi. Mon espèce de bonhomme.
J'aurais fait ça.
Regardez-le bien arriver la prochaine fois qu'il est en onde ici et dire « Ouais, j'ai essayé de démonter ma tondeuse, ça a pété dans ma face. »
La bougie, c'est ça. C'est la bougie que j'ai dit la fuse, oui. Mais la bougie, il y en a qui dit pas, change la bougie.
Ouais, mais c'est une tondeuse électrique, il n'y a pas de bougie.
Ah, calé.
Quelqu'un disait aussi de mettre de l'essence, mais ça aussi, ça vient de couper un peu.
Ouais, non, ça, du race fuel, là, ça sera pas une bonne
Hélène
idée.
Hélène, t'as dit, moi, je suis plus outré que Paul joue au spikeball pendant que Marie fait le gazon.
Ça, Hélène, là. Ça, c'est un commentaire tellement genré, là.
Oui, ah, c'est
ça. C'est sexiste, ça.
Non, mais elle sait que Marie fait
tout. Comme si ma blonde pouvait pas passer la tondeuse.
T'es de mauvaise foi.
Ça, là, c'est réservé aux hommes. Ah, ben, on sait bien.
Regarde-moi, espèce de matou. C'est très bien pourquoi elle dit ça. C'est parce que Marie a fait tout à la maison.
Espèce de matou. Hey. Oh boy! Le pire, c'est que ça m'arrive souvent de me dire « Les voisins doivent trouver que je fais rien. » C'est tout le temps ma blonde qui passe la tondeuse. Mais elle aime ça, passer la tondeuse. Ma blonde, elle travaille de la maison, là. Puis mettons, là, à midi, elle est en break jusqu'à 1 heure. Tu sais, horaire de fonctionnaire.
Mais je fais semblant que je ne connais pas l'histoire.
Fait que là, à midi, elle s'installe. Mm-hmm. C'est moi qui fais à manger naturellement, puis c'est prêt à midi. Ouais,
parce que c'est vrai, elle, côté
sauf
cuisine.
Sauf que... Oui, mais ça se passe dans la cuisine. Les voisins, ils ne savent pas. Les voisins, eux, tout ce qu'ils savent, c'est qu'elle, à midi, son petit repas, il est prêt. Elle mange, miam, miam, miam. Là, à midi et quart, elle fait comme, bon, mais il me reste 45 minutes. Elle va passer à la tondeuse pendant une demi-heure. Puis là, après ça, bon, mais là, il est 1 heure moins quart. Qu'est-ce que je ferais bien? Fait que là, ben, mettons, je sais pas, moi, elle va passer à balayeuse, genre. Elle passe à balayeuse. Puis là, ah, ben, il est 13h, je peux retourner travailler. Moi, le passer à tondeuse, la balayeuse, c'est mon activité de la journée, là, s'il faut.
Oui, c'est
là.
Tout, là.
C'est là. Hey!
Y a
je coche
d'autre.
Deux affaires sur ma liste, balayeuse puis tondeuse.
Non, c'est un ou l'autre.
Hey! Hey. Fait qu'en tout cas, ça pour dire que pour l'instant, j'ai pas de tondeuse, mais si jamais il y a des réparateurs de tondeuse qui existent, on va commencer par la réparer moi-même, mais éventuellement, je vais avoir besoin de vous parce que ça ne marchera pas.
Écoutez, déjà, là, préparez-vous 25-226, écrivez vos références. Sinon, Alexis Sanson, c'est sûr, c'est faire ça. Je ne veux pas diminuer notre
masculinité. Alexis, là, le mercenaire, ça va être correct. Là. Ouais, regarde, il va prendre ma tondeuse, il va l'amener à Trois-Rivières, ouais, c'est ça? Hein? Bon.
Alexis, là, il sait réparer une tondeuse, mais c'est pas c'est quoi des œufs brouillés. Fait que, tu peux aussi te comparer dans ce que tu veux, dans toutes les catégories.
Bon, alors, passons donc aux choses sérieuses. Oui. Voici vos nouvelles. Pascal CV, qu'est-ce qu'il y a pas dans les nouvelles ce matin?
Oui, ben ce qui attire mon attention, c'est sûr que c'est le suivi qu'on fait sur l'alerte Amber d'hier, parce qu'on a plus d'informations que ce qu'on avait. Vous êtes fait réveiller fort probablement par cette alerte Amber. Ici, ça passait sur nos ondes à la télévision, c'était partout. On cherchait une jeune fille de 16 ans. Eh bien, c'est un conflit intrafamilial qui serait peut-être à l'origine de l'enlèvement de cette adolescente lundi soir. Une histoire qui a débuté vers 23 ans, je vous rappelle, lundi soir, dans un restaurant du boulevard Saint-Charles où la jeune fille travaillait. C'est dans l'arrondissement de Kirkland à Montréal. Et à un moment donné, il y a des suspects qui sont entrés, suspects dont probablement deux de ses frères. C'est ce qu'on sait également. Ils commencent à la bousculer, ils commencent à l'amener au fond de la cuisine, puis dire tu vas nous suivre, puis c'est maintenant. Elle travaille, là. Fait que il y a des collègues autour, au moins un collègue de ce qu'on sait dans les informations qui sont coulées des policiers jusqu'à maintenant. Et ça continue. Ils l'amènent vers l'extérieur de l'entreprise en question. Et il y a un collègue qui s'interpose, qui dit voyons, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Lâchez là et reste avec nous. Et eux disent non, on est ses frères, c'est correct. Et tout ça. Mais clairement, elle a ce débat, là. Fait que tu vois quelque chose qui cloche. Le collègue en question commence à se chamailler aussi avec un des frères. C'est ce qu'on comprend des informations, entre autres, du Journal de Québec. Et par la suite, et ils réussissent à... je vais dire garrocher. Je vais utiliser le terme le plus vulgaire parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Là. Ils ont garroché la jeune fille dans la voiture. Ils ont quitté les lieux. Les enquêteurs ont craint pour la sécurité de l'adolescente et c'est là qu'il y a eu l'alerte Amber qui a été déclenchée. Il y a un des amis du suspect, ça c'est très nébuleux, là. C'est vraiment l'information que je peux vous donner jusqu'à maintenant. Un des amis du suspect qui a déposé la jeune femme autour de 7h hier matin dans un poste de police, toujours à Montréal, donc elle était restée sur le même territoire. Elle souffrait d'un choc nerveux encore aujourd'hui, et de blessures très légères. Il devait comparaître 3 suspects, dont ses 2 frères, hier soir. J'ai pas d'informations en ce moment sur ce qui s'est dit, quelles sont les accusations et autres, mais je sais qu'il y avait 3 suspects qui ont comparu, 4 personnes interrogées, probablement le collègue en question, si vous me laissez supposer. Et on aura plus d'informations du service de police de la ville de Montréal. Hier, tout ce qu'on a su, c'est qu'il comparaissait par téléphone.
Juste quelques précisions, là, il y a un bout, je suis pas sûr d'avoir compris. Il y a 2 personnes qui font irruption dans le restaurant.
Avec une troisième personne, là,
okay, ils sont 3.
Aux alentours, mais il y a 2 personnes qui entrent, oui.
OK, puis la troisième personne, c'est le collègue, c'est
ouais,
ça?
Ben, troisième personne est dans l'établissement, mais y a-tu quelqu'un à l'extérieur dans la voiture? Il nous manque de l'information. Okay, je t'ai donné, il faut que tu te fies à ça.
Puis c'est qui? Puis la personne qui ramène la jeune fille au poste de police,
c'est ça? C'est un ami.
Mais c'est pas, donc c'est pas une des personnes qui avait fait irruption dans le resto.
Je sais pas, Paul, c'est ça l'affaire.
Je pose pas de question.
Moi, je te donne les infos que j'ai, OK? Un des amis du suspect, puis quand je te disais c'est super nébuleuse parce que j'ai rien d'autre pour toi.
C'est bizarre.
A ramené la jeune fille dans un poste de police à 7h hier matin. C'est là où on a arrêté l'alerte Amber, puis on a annulé le tout, là.
C'est tellement bizarre, là. Il va y avoir des détails qui vont probablement apparaître éventuellement. Là,
mais surtout suite à la comparution, il y aura des journalistes judiciaires qui vont se pencher sur le questionnement là, des policiers.
Ma crainte, c'est que ce qu'on risque d'apprendre sera pas beau. Généralement, dans des cas qui s'apparentent à des crimes d'honneur, des choses comme ça, il y a toutes des espèces d'affaires épouvantables. On a entendu des histoires de torture, des histoires de... Là,
clairement, ça, là, juste de savoir que 2 frères de cette jeune fille-là, entre dans l'endroit où elle travaille, la bourrasse, essaie de la mettre de force dans la voiture, de l'amener de force, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Là.
Ah, j'ai comme d'un sens la curiosité de vouloir savoir ce qui a pu se passer, mm-hmm. mais quand on va l'apprendre, c'est ça, ça risque d'être des affaires qui vont être dures à entendre. En tout cas, c'est ça. C'est les informations qu'on a pour l'instant.
Exact. Accident de VTT dans le comté de Portneuf hier à Saint-Raymond, plus précisément. C'est un homme dans la trentaine qui a subi beaucoup de fractures, alors de multiples fractures, après une embardée avec son véhicule tout-terrain. C'est la Sûreté du Québec qui nous a donné des informations comme quoi il aurait perdu la maîtrise de son VTT avant l'embardée et avant d'être éjecté de son véhicule. C'était autour de 19h30 sur le rang Saint-Mathias. Et il y a des membres de la famille qui étaient à proximité qui ont été alertés par les bruits de l'accident. Ils ont réussi à contacter les policiers, les ambulanciers. On ne craint pas pour la vie de l'homme dans la trentaine, c'est au moins ça, mais il y aura certainement une enquête pour comprendre ce qui s'est passé. C'est peut-être une manœuvre d'évitement qui aurait créé l'embardée, c'est ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Ça fait le tour de l'actualité du côté de l'île aux coudres. C'est très rare que je parle de l'île aux coudres en termes de bulletin de nouvelles, là. Mais il s'est passé quelque chose d'héroïque. Hélène Lemay, une dame, une artiste qui a entendu des cris pendant qu'elle travaillait dans sa résidence sur la bordure du fleuve Saint-Laurent. Et là, elle dit, voyons, c'est bien loin ces cris-là. Qu'est-ce qui se passe? Elle se met à regarder au loin, à regarder le cours d'eau. Puis elle voit 2 silhouettes qui semblent prises sur un genre de mini pit de sable entourée d'eau. Donc, c'est 2 personnes, une femme et sa fille de 10 ans, qui se sont fait prendre par la montée des eaux. Elle marchait et profitait du grand air.
Ça pointe de l'île aux coudes, là?
Mais dans le coin de l'île aux coudes. Okay, là, okay. Écoute, quelle pointe, quel côté?
Il y a un secteur, là.
T'as un secteur dans ta tête.
L'orientation, là, c'est-tu la pointe de l'ouest, là? Mais en tout cas, c'est dur à dire, là, mais espèce de point de vue, il y a beaucoup de gens qui vont, là. Tu peux tellement te faire pincer par la marée à cet endroit-là. Là.
C'est ce qui est arrivé.
Je serais tellement pas surpris que ce soit là.
C'est ce qui est arrivé. Ils ont été pris par surprise. Puis là, à un moment donné, tout ce qui te reste, c'est ta voix, ton cri. Fait qu'ils se sont mis à hurler. Puis c'est dangereux plus qu'on pense. C'est pas juste, on peut vous oublier ça. Puis là-bas, puis mettons, attendez jusqu'au lendemain. Puis un jour, on va vous trouver. C'est pas ça du tout. C'est parce que l'eau va continuer de monter. Puis ça peut emporter des gens. Puis après, le courant est assez fort et c'est la noyade qui peut atteindre ce type de personnes-là qui sont prises sur les monticules de sable.
Le courant est super fort dans ce secteur-là. C'est le fleuve, là, tu sais. Puis il y en a large, là, tu sais, à cet endroit-là. Mais l'affaire avec cette pointe-là, je suis plus encore là, on sait pas si c'est là, mais l'affaire avec cette pointe-là, c'est que c'est super long. Fait que tu peux vraiment t'approcher, tu peux aller vraiment loin sur la pointe, mais c'est pas tout à fait droit. T'as des, comme des espèces de plateaux puis des gros rochers. Fait que si tu te retrouves sur le rocher, mettons, là, puis que tu restes là, puis tu t'installes, puis tu t'endors une sieste, peu importe, là, ben là, c'est plat en dessous. C'est, le rocher est sur du plat. Fait que la marée, elle monte tranquillement, tranquillement, mais quand elle arrive au secteur qui est comme plat, ben là, ça prend 2 secondes que ce secteur-là, il est submergé. T'sais.
C'est derrière toi, ça n'en est peut-être pas rendu compte.
Puis là, tout d'un coup, ben, toi, tu te retrouves sur le rocher, puis autour de toi, il n'y a que de l'eau.
Ça peut arriver à l'île d'Orléans. Peut-être que si vous n'êtes jamais allé à l'île aux Coudres, c'est plus facile de regarder puis de visualiser ce qui peut arriver. Là, à l'île d'Orléans, c'est le même principe dans certains secteurs. Mais ça, pour dire que la dame en question a appelé les autorités, puis elle a dit à son mari, qui était avec elle dans la résidence, fais quelque chose, s'il te plaît, on faut les aider. Lui, il a sauté dans son kayak. Il a pagayé de façon intense environ 1,5 km. Il est arrivé à ces deux femmes-là. Il les a fait monter comme il pouvait sur le kayak. Wow. Et il a réussi à les sauver. Très belle histoire quand même. Au moins, ça se finit bien.
Geste absolument héroïque. C'est vraiment cool.
Il y a un artiste qui est accusé de production de pornographie juvénile. C'est un artiste de Lévis. Il s'appelle Mario Beaudoin. Il est quand même populaire côté peinture. C'est parce que là, je veux juste vous mettre en tête ce qu'il fait. Là, c'est un gars qui fait des peintures colorées. Il y a aussi un endroit aux îles de la Madeleine depuis quelques années. Je vous en parle parce que ça se peut que vous ayez déjà vu ces peintures pour vous juste vous le visualiser dans votre tête. Donc, lui, il a admis la production de pornographie juvénile, de production de vidéos et tout ça, mais il n'a pas admis la portion où la victime était mineure. Lui, il plaide qu'elle était majeure. Donc, il évacue pornographie juvénile de tout ça et avec ses avocats, il est en train de se défendre là-dessus. Je vous explique l'histoire. Le peintre de Lévis, Mario Beaudoin, il aurait pris des images de la fille de son ex-conjointe. Très particulier. Il a réussi à mettre des caméras de surveillance, je ne sais pas comment, à l'intérieur de démarreurs à distance qui cachaient dans certains endroits.
Le démarreur à distance.
Ouais. Et en 2017, le frère de la victime a découvert ces démarreurs à distance-là et le contenu des démarreurs à distance. Puis on le voit, Mario Beaudoin, là, poser les démarreurs à distance à des endroits spécifiques. Puis on voit des scènes, malheureusement, de nudité de la jeune fille qui n'a aucune idée que c'est en train d'enregistrer. Donc, 3 vidéos qui ont été découvertes. La première en 2012 lors d'un voyage à Toronto. La victime est au secondaire à ce moment-là. Elle se déshabille, donc c'est capté. 2 autres vidéos qui ont été tournées dans la salle de bain et la chambre de la victime dans un moment de grande vulnérabilité. Elle se lave ou échange des vêtements. Alors ça, c'est rapporté dans le document. Il y a des images qui ont été enregistrées jusqu'en 2015, selon ce qu'on a trouvé pour le procès. Alors, il a admis avoir pris ces images vidéo-là, mais lui, quand il se défend, c'est qu'il dit que la victime était majeure. Donc, si c'est reconnu comme production de pornographie juvénile et que lui part en cours, c'est passible d'un minimum d'un an de prison, minimum pour la pornographie juvénile. Les avocats de l'homme de 58 ans, eux, plaident que la plaignante n'est pas crédible dans les 2 témoignages qu'elle a offerts, soit un en 2018 et l'autre en 2021. Et le procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales, donc la couronne, affirme exactement le contraire. Le juge Steve Magnan va devoir rendre son verdict et démêler le tout. Alors, sur les 3 accusations de production, possession, pornographie juvénile et de voyeurisme, c'est ce dont fait face Mario Beaudoin et ce sera jugé au mois d'octobre.
C'est qu'ils ne sont pas capables de savoir quand est-ce qu'il a mis les démarreurs à distance. Parce que le majeur, mineur, là, je veux dire, la jeune fille, s'ils sont capables de dire les gestes se sont passés en telle année,
exact,
ben, avec quel âge en telle année, c'est tout.
Ben, c'est le processus judiciaire qui, par la suite, mais lui, il a le droit de se défendre comme il veut, il a le droit de prétendre ce qu'il veut, puis après, ça sera départagé en cours. Là. Mais effectivement, quand tu as des images, puis tu es capable de remonter à des faits, puis les moments où le voyage a été fait, tu sais, comme moi, je suis capable de dire qu'on dit qu'au printemps 2012, elle était en voyage à Toronto, puis il y a des images qui ont été prises. Elle avait quel âge en 2012?
C'est ça, en 2012, c'était en secondaire 4, on s'entend que supposé d'avoir l'âge de secondaire 4. Là,
à moins qu'elle ait doublé là, et tout
ça. Oui, mais encore là, le gars, t'sais, mettons qu'elle a doublé. Mais peu importe, le gars, il a pris photo d'elle. Tu sais, dans le fond.
Ouais, ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose en arrière de tout ça. C'est du voyeurisme en partant. Là.
C'est ça, production de matériel pornographique, en tout cas de.
Mais pour la
question, c'est
tu majeur
ou mineur.
Oui, c'est ça, parce que lui se défend qu'elle était majeure. Donc, c'est le gros morceau en cours.
C'est drôle de défense. Je comprends l'idée derrière le fait que le gars, s'il a effectivement pris des images, ben, il veut essayer d'atténuer les conséquences, là, tu sais, en se disant, ah oui, non, mais si elle est majeure, peut-être je vais moins me faire casser la gueule en prison, je sais pas trop, là. Mais, il me semble jouer sur l'âge, c'est tellement factuel, là.
Puis quand je regarde les documents, ben, bonne chance pour se défendre parce que ça va être, je pense que ce serait facile. Là, c'est une supposition sur de mon cadre de journaliste, mais de vérifier les faits.
Je pense aussi. Pour moi, ça m'apparaît quelque chose qui est pas trop compliqué de savoir ça être, les images ont été prises quand. Puis qu'il le sache ou qu'il le sache pas, c'est pas important. C'est quel âge elle avait, point, dans le fond. En tout cas, on suivra ça attentivement.
Je reviens sur le crime d'honneur du côté de Sherbrooke. Marek Dalk-Ala va savoir ce matin s'il sera remis en liberté. C'est ce père de famille, l'homme de 42 ans d'origine syrienne, qui fait face à 6 chefs d'accusation, dont menaces de mort et voies de fait. C'est lui et ses 3 fils qui auraient roué de coups un jeune homme de 22 ans qui est tombé inconscient après ces coups-là, dont je vous parlais hier, des événements qui se seraient produits même à plusieurs reprises, là, jusqu'à celui-ci où il a été particulièrement violent parce qu'il est tombé inconscient. Donc, jeune homme qui semble avoir été battu seulement parce que il y aurait eu un échange de textos avec la fille de l'accusé. Donc, une histoire de contrôle là, familial. Selon la couronne, il y a un des amis de la victime qui aurait déjà subi le même sort pour la même raison. Donc, peut-être même pas la première fois que cette famille-là est violente envers quelqu'un. Il y a des témoins qui sont effrayés par la famille Allah qui auraient renoncé à parler aux policiers, juste pour vous dire à quel point ils peuvent être menaçants ou paraître violents.
Les crimes d'honneur ces temps-ci... Ça se passe.
Mais je peux pas dire qu'à l'alerte Amber, c'était ça. Il n'y a pas un moment où c'est
j'avoue,
sorti. Là.
J'avoue, tu as raison.
Je sais pas si tu te rappelles de Jonathan Marchand.
Oui, c'est le monsieur...
Enchaîné devant l'Assemblée nationale
oui,
dans une cage
là.
Aussi. Oui, exact. Lui, il demandait au gouvernement de sortir les handicapés des CHSLD. Il était resté là pendant 5 jours. Il disait, moi, je vais rester aussi longtemps que j'ai besoin de rester devant l'Assemblée nationale dans une cage et enchaînée. Tant qu'il n'y a pas un représentant de la CAQ qui vient me parler, moi, je ne m'en vais pas de là. Je veux faire valoir mon point que j'ai besoin de me développer en tant que citoyen actif à part entière, mais en vivant chez moi, pas dans un CHSLD avec des gens qui ont des troubles différents. Parce que lui, il a une dystrophie musculaire. Il vit en CHSLD contre son gré depuis 2012. Il a seulement 44 ans. Il a envie de vivre chez lui, puis même travailler. Mais en CHSLD, c'est un petit peu plus complexe. Donc, il avait demandé au gouvernement d'aller de l'avant puis de prendre les sommes que le gouvernement investit en CHSLD pour s'occuper de ces personnes handicapées-là et tout simplement de les transférer pour qu'on s'occupe de ces gens-là dans un domicile. Donc, d'avoir des soins personnalisés à eux. Et le gouvernement avait tendu l'oreille. Ce qu'on dit, c'est qu'il était parti de l'Assemblée nationale avec quand même l'impression qu'il avait été écouté, même qu'on lui avait promis un projet pilote pour permettre à ces personnes-là handicapées de sortir des CHSLD. Cependant, il a reçu une missive dernièrement et le gouvernement fait volte-face. Alors, il a reçu une lettre du ministère de la Santé et des Services sociaux qui est datée du 5 juillet, qui l'informe que le projet pilote est complètement abandonné. Je peux pas dire qu'il y ait autre chose qu'il est déçu, extrêmement déçu, il est même fâché. Ce qu'il dit, c'est que finalement, le gouvernement n'a jamais eu de volonté politique, il essaie de bien paraître dans tout ça, mais qu'au final, il n'avait pas l'intention d'aller plus loin avec sa demande. Alors, il est fâché. Et du côté du gouvernement, ce qu'on dit, c'est que bon, il est impératif de mentionner qu'il n'abandonne pas le projet de sortir les personnes handicapées des CHSLD, mais c'est très court là, comme justification. Ce sera un dossier probablement qui va revenir dans l'actualité parce que Jonathan Marchand reste très militant à ce sujet-là.
Et puis, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce que, je veux dire, d'abord, moi, je comprends que c'est pas une vie, là. Je veux dire, il a toute sa tête, 44 ans. Puis, je veux dire, en tout respect pour les personnes qui vivent en CHSLD, il y en a beaucoup qui sont en perte cognitive, tu sais, très âgés. Pour une personne de 44 ans qui a toute sa tête, c'est pas un endroit, là, pour vivre. Là,
non, puis, il y en a qui plaident qu'il aurait se détériore aussi quand ils arrivent en CHSLD parce qu'ils sont entourés de personnes qui sont plus malades.
T'as beau avoir un handicap, là, je veux dire, là, on parle de si on parle, oui, on se souvient à ses besoins de base, là, mais il n'y a pas moins le droit de s'épanouir que quelqu'un d'autre. Puis c'est pas un endroit pour s'épanouir. Là,
c'est pas très stimulant, mettons. Là.
Ben, c'est ça. Je pense aussi à Alain Godette qui est un... Je sais pas si c'est de la dystrophie musculaire là comme M. Marchand, mais je sais que c'est un autre gars qui vit en fauteuil, tu sais, puis qui fait aussi des soirées bénéfices avec Mike Ward, oui. Qui fait souvent des spectacles là, qui appelle Alain le Magnifique, là, tu sais, pour justement être capable de financer les services à domicile pis tout ça. Mais tu sais, quand tu y penses, ça y prend un gars comme Mike Ward qui est un des humoristes qui a le plus de succès dans la province pis qui tu sais, qui fait de l'argent pis tout ça. Il faut qu'il fasse régulièrement des shows bénéfices. C'est des centaines de milliers de dollars dans les dernières années qui ont été ramassés pour Alain Godette. C'est ça que ça coûte. Fait que tu sais, un gars comme M. Marchand, là, à moins que Martin Matt décide de faire des shows pour lui, je dis à la blague, mais vous comprenez que il y en a pas mille des solutions là, il faut que ça passe par le gouvernement parce que à moins qu'il gagne à la loterie là, il peut pas se payer les services de maintien à domicile. Fait que là ben tu as le choix entre les deux. Tu peux pas parce que quelqu'un a un handicap comme celui-là Mais l'enfermer dans un CHSLD à vie puis attendre que la mort vienne le chercher, là, c'est pas une façon dont on peut traiter les gens. Là. Fin de l'éditorial.
Grève chez les traversiers, point d'interrogation. Ben peut-être, hein? Tout le monde est en grève au Québec, ça n'a pas de bon sens. J'ai l'impression d'ajouter un groupe à chaque matin. Mais là, des employés de 3 traversiers pourraient faire la grève en août. On espère que ce ne sera pas pendant la fermeture du pont Pierre-Laporte, mais si ça va de l'avant avec cette grève-là des employés syndiqués, eh bien, ce sera 2 jours pendant un week-end du mois d'août. Et ça, c'est si les négociations concernant le renouvellement de leur convention collective ne progressent pas suffisamment. Ça concerne qui? Ça concerne les employés des traversiers. Vers Sorel-Tracy, Saint-Ignace-de-Loyola, Québec-Lévis, Matane, Bécomo, Godbout. Entre autres, on demande à ce que le temps supplémentaire soit payé. Ce qu'on dit du côté du syndicat, c'est que l'employeur refuse de payer le temps de travail supplémentaire effectué si celui-ci ne dépasse pas 14 minutes. Alors, c'est réglementé. Puis ça, c'est un des points qu'ils veulent gagner dans leur demande. Justin Trudeau qui s'est prononcé, entre autres, sur la mixité de vaccination. Là. Entre autres, si vous avez commencé avec AstraZeneca, que là, vous êtes à Pfizer, vous voulez voyager, qu'est-ce qui vous attend? Il y aurait des discussions quand même intéressant du côté des provinces, mais on veut étendre ça plus loin à l'international. Justin Trudeau qui s'est montré dans le dossier hier. C'est un peu ce que j'ai vu comme geste politique, là. Il a voulu faire savoir qu'il travaillait parce que, vous savez, le gouvernement du Québec demandait justement que ça aille de l'avant. Et même l'opposition mettait de la pression sur le gouvernement de la CAQ pour que ça se rende au fédéral et que le fédéral bouge. On souhaite que les documents que vont présenter les Canadiens restent sécuritaires et soient acceptés à l'étranger. C'est ce qui est discuté. Parlant de codes qui nous permettent de prouver qu'on a été vacciné, le code QR qui revient dans l'actualité, cette fois-ci dans Le Devoir ce matin, on dit que la preuve vaccinale qui est émise par le gouvernement du Québec n'est pas cryptée, ce qui rend le tout très, très facilement décodable pour les gens malveillants. Il y a même une vidéo qui a été mise en ligne hier soir par les membres de la communauté ACFES, là, qui est genre de pirates. Je veux dire sympathique parce que pirate, souvent, c'est péjoratif dans notre tête, là. C'est juste des gens calés en informatique, puis en cryptage, puis en XYZ, qui ont réussi assez facilement à voir la faiblesse du code QR. Vous pouvez aller voir ça, là, communauté du Hackfest. Et depuis quelques semaines, il y a des experts en cybersécurité qui tentent d'avertir le gouvernement de possibles failles dans la preuve de vaccination numérique. Et je termine avec 2-3 nouvelles à l'international. Le masque qui est de nouveau recommandé à l'intérieur pour les personnes vaccinées dans les secteurs où la COVID-19 se propage aux États-Unis. Alors, c'est près du 2/3 des comtés américains qui voient cette recommandation-là être remise de l'avant. On tente de contrer le variant Delta et même dans les systèmes scolaires, la modification de recommandation prévoit que tous les enseignants, les élèves, le personnel des écoles portent le masque, même s'ils sont vaccinés. Et en France, dans les lycées, les universités, ici, il y a un cas de COVID-19. Seuls les étudiants non vaccinés vont devoir faire les cours à distance. Pour ceux qui sont vaccinés, vont pouvoir continuer à fréquenter leur établissement scolaire. C'est une autre incitation que vient de mettre en place le ministre de l'Éducation du côté de la France. On veut vraiment que les gens aillent se faire vacciner, donc on prend les mesures pour que ça aide les gens à y aller.
Merci beaucoup, Pascal. On prend une courte pause à 7h37. Et je suis en train d'essayer de m'inscrire à la loterie du vaccin puis au code QR. Ça fait que après la pause, je regarde de vous dire si le site est planté ou si ça marche parce que depuis un bout de temps. Ah! Ça a-tu marché? Je pense que ça a marché. Oui! Je pense que ça a marché. Fait que là,
t'es millionnaire,
si jamais.
T'es pillionnaire.
Ça y est, je suis pillionnaire. Non, si jamais vous voulez vous inscrire, peut-être qu'en ce moment, c'est un bon moment. Ça a l'air qu'il y a une petite éclaircie, là. Il y a une petite fenêtre d'opportunité qui fonctionne. C'est qu'aller sur le site, c'est covid19.quebec.ca, mais googlez « gagner à être vacciné », vous allez trouver le lien pour vous inscrire. Courte pause, on revient.